Si vous pouvez trouver Job dans la Bible chronologique. On va lire dans Job, chapitre 1er. Il n'y a pas l'onglet sur le côté, alors il faut faire défiler jusqu'à un peu avant Abraham. Donc, il faut continuer encore. Hop, un peu avant. Merci. Encore, remontez. Voilà. Remontez un petit peu avant. Voilà, encore un petit peu. Encore un petit peu. On va rester là. Voilà. En fait, dans la Bible chronologique, cet historien, ce pasteur historien, donc, qui a réécrit la Bible dans l'ordre chronologique, il a mis les événements tels qu'ils ont dû se dérouler dans l'histoire. Et donc, on le sait en lisant les commentaires, mais maintenant, ça apparaît dans cette façon-là de remettre le texte en liaison. Eh bien, Job est un livre très ancien, certainement daté d'avant ou à peu près la période du patriarche Abraham. Voilà. C'est lié à ce qui est contenu dans le livre qui permet de tirer ces conclusions-là au regard de la connaissance de Dieu, on en parlera succinctement. C'est lié aussi aux expressions, c'est lié également à la localisation. Et à certaines coutumes que l'on retrouve dans le livre de Job qui montrent qu'on est avec déjà un contexte culturel ancien au niveau de la famille et des amis. Et donc, on est dans la chronologie, la naissance de Térakh. On arrive aux ancêtres d'Abraham. On peut remonter un petit peu. Non, alors redescendre, pardon. On fait avancer le texte, on va dire ça comme ça. Voilà, encore. Et là, on arrive à peu près à la naissance de Job. Alors, cette datation met à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, sachant qu'Abraham, c'est à peu près 1900 ans avant Jésus-Christ. Voilà. On continue. Il y avait dans le pays d'Utz, et on y va, au chapitre 1er du livre de Job, verset 1er. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Voilà. Et on avancera progressivement. Le message de ce soir risque d'être surprenant. En fait, je mets en pratique ce que je vous ai dit dimanche. Je lis la Bible dans la Bible chronologique. Ça va permettre de remettre certains événements dans l'ordre par rapport aux lectures habituelles de la Bible et puis après à l'histoire de la Bible que l'on a consultée, apprise les uns et les autres et qui nous amène à dire « Ah oui, ce livre, c'est plutôt là, cet événement, c'est plutôt là. » Et finalement, la Bible chronologique, c'est le fil conducteur sans être la vérité absolue. Néanmoins, c'est très probable. Donc, en relisant le livre de Job, placé à ce moment-là, et on le sait que c'est à ce moment-là d'histoire, c'est particulier ce qui lui est arrivé. Alors, je n'ose pas dire qu'aurions-nous fait à sa place. Néanmoins, on va le voir autrement. Si ce qui lui est arrivé nous arrivait, que ferions-nous? Alors, il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Job, son nom signifie « haï, ennemi » et peut-être même « je m'exclamerai ». Alors, ça a l'air d'être curieux, mais on est dans la pensée orientale où un mot ne signifie pas qu'une seule chose. C'est le contexte aussi qui aide à comprendre le sens du mot quand il est utilisé à tel endroit ou à tel endroit dans une phrase. Et peut-être qu'il est arrivé à s'exclamer à cause des difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie, et on en a quelques exemples. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils, 3 filles, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ce qui permet de placer l'histoire de Job avant même Abraham, c'est qu'il n'y a strictement aucune référence au sacrifice qu'Abraham devra découvrir et comprendre, encore moins de référence à ce qui arrivera après, et bien encore moins de référence à la loi qui sera donnée à Moïse. Donc Job est un croyant en un temps certainement antérieur à une autre révélation que Dieu donnera à Abraham et ensuite à la descendance d'Abraham, au peuple d'Israël, peuple qui s'est choisi. Là, il n'y a strictement aucune trace du peuple de Dieu. Donc cet homme est un croyant qui veut être droit devant Dieu et qu'il sait que le péché demande réparation. Alors au cas où ses fils aient péché, eh bien, le matin, il se lève de bonne heure et puis il offre un sacrifice, un holocauste. Et c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Il avait des biens, il avait des enfants. Dans le livre des Chroniques, il est dit « Tout vient de toi. Tout ce que nous avons vient de toi. Voilà. Et nous recevons de ta main ce que nous avons. Tout vient de toi. » Est-ce que nous l'avons vraiment intégré? Que tout ce que nous avons vient de lui? Attention, il faut bien l'intégrer, parce qu'on va tout perdre. Or, si on n'a pas vraiment bien intégré que tout vient de lui, on ne va pas pouvoir perdre. En tout cas, on ne va pas arriver à perdre comme lui. Il arrive à perdre dans sa réaction. Il avait coutume d'agir, qui souligne le souci permanent que cet homme avait à l'égard de ses enfants. Et dans ce sens, le temps n'a pas fait de différence. Aujourd'hui encore, on a le même souci à l'égard de nos enfants. Même s'ils sont devenus adultes, qu'ils sont capables de faire la fête ensemble, de s'inviter entre frères et sœurs, ils n'ont plus besoin ni de papa ni de maman. Le fils prodigue lui fera la même chose, mais en allant vivre dans la débauche. Apparemment, ce n'est pas leur cas. Mais ce que font ces enfants devenus grands, c'est un souci permanent pour Job, le papa. Et ça, pour nous, on n'y échappera pas. Et nous devons être pour nos enfants l'exemple, le modèle du troupeau, pour ceux que le Seigneur appelle dans le service de Dieu, à être des anciens dans l'Église, etc. A fortiori, ça commence dans notre maison. Comment pourrait-on être un modèle, un exemple dans l'Église si on ne l'est pas d'abord à la maison? Et à la maison, on ne l'est pas en parole, on l'est sans rien dire, on l'est même sans vouloir le montrer, mais ça va se voir, qu'il se lève de bonne heure pour offrir un holocauste et pour manifester sa piété, sa crainte de Dieu. Et il le fait pour le bien de ses propres enfants, pour le bien de sa famille. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui doit être une constante chez nous, quelque chose de permanent dans notre vie, au cas où nos enfants aient dérouté et commis quelque erreur que ce soit. Ce n'est pas nous qui allons répondre pour eux, Job ne le sait pas. Il ne sait pas ce que le Seigneur révélera au prophète Ézéchiel. Ce n'est pas les parents qui sont responsables pour les enfants, ce n'est pas les enfants qui sont responsables pour les parents. Néanmoins, il est conscient qu'il ne peut pas dire bah, « de toute façon, ça ne me concerne pas ». C'est sûr que c'est leur responsabilité, mais ce qu'ils font nous touche. Et si ça nous touche, ça touche le Seigneur. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et Satan vint aussi. Curieux de le voir là, avec une forme de liberté, se présenter devant Dieu. Alors là, il faudrait que l'on retourne dans la Bible chronologique plus haut, mais on ne va pas le faire, hein, pour voir Satan, où il est positionné dès ce départ de l'humanité, l'orgueil qui est dans son cœur, la chute qui est la sienne, et la tentation qu'il va amener dans le monde pour amener le monde dans la chute après lui. Et tant que les choses ne sont pas réglées, il avait la possibilité de se présenter devant Dieu, mais il ne l'a plus. Mais tant que les choses n'étaient pas réglées, il avait la possibilité de se présenter devant Dieu et il avait la possibilité d'accuser les frères. Mais l'accusateur des frères a été débouté. Alors on va le voir, parce que dans la Bible chronologique, du coup, on a la liberté d'aller là où on veut. Dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, où cette question est réglée. Chapitre 12 et verset 7. Il y a des personnes qui sont arrogantes, il y a des personnes qui, pendant un certain temps, jusqu'à leur mise à l'écart, jusqu'à leur condamnation, etc., elles se permettent des libertés et elles agacent tout le monde. Je suis sûr que l'Éternel supportait plus de voir arriver l'accusateur des frères. Mais il ne pouvait pas encore, parce qu'il est parfaitement juste, il ne pouvait pas encore lui interdire l'accès, parce qu'il fallait d'abord effacer le péché. Il fallait le vaincre sur son propre terrain, pour ensuite le précipiter hors de la présence de Dieu. Donc, ça s'est passé et c'est relaté au chapitre 12, verset 7 du livre de l'Apocalypse. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » Et c'est ce terme, l'autorité de son Christ, qui nous donne la date. C'est quand Jésus donne sa vie à la croix qu'il prend autorité sur le péché, qu'il déboute les dominations et les autorités, qu'il les livre publiquement en spectacle, et qu'il les vint sur leur propre terrain. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il est vaincu, mais dans le temps du livre de Job, il ne l'est pas encore. Alors, il se présente. Ça peut nous surprendre, mais c'est un être qui existe. Un être déchu, mais un être qui existe. Et que Dieu, par justice, tant que tout n'est pas réglé, tant que son fils n'a pas donné sa vie à la croix, tant que le monde n'est pas arrivé à son terme, tant qu'on n'arrive pas au moment du jugement dernier, il laisse subsister les uns et les autres. Mais pour les uns et les autres, c'est quand ce n'est plus qu'un compte à rebours jusqu'à être jeté dans les temps de feu et de soufre qui est la seconde mort. Et puis pour beaucoup d'autres, c'est le temps de la grâce. Et le temps qui passe a cette double réalité. Le temps qui est un compte à rebours pour certains, et il ne faut pas l'oublier, parce qu'il a dit « à moi la vengeance et à moi la rétribution », et le jour du jugement dernier, ça va taper fort, comme jamais ça n'a tapé sur la terre, à tel point que la terre elle-même va sauter, sous la puissance des coups, parce que tout s'arrêtera, la folie de ce monde, l'endurcissement des cœurs, la désobéissance foncière, concernant le Seigneur, et s'arrêtera aussi le temps de la grâce. C'est-à-dire, il est toujours possible aujourd'hui, encore et encore et encore, mais jusque quand, on ne sait pas, puisqu'on ne connaît ni le jour ni l'heure du terme de ce temps, mais c'est le temps de la grâce que Dieu donne à tout le monde pour changer de position, se tourner vers lui, pour que le péché soit effacé, pardonné, pour que le nom soit inscrit dans le livre de vie, et ça va très très vite. Et le brigand sur la croix, ça va aller très très vite pour lui. Ce n'est même pas proportionnel à ce qu'il a fait, à ce qu'il mérite, pour lequel on pourrait dire « Oh, on va attendre une période d'abord de mise à l'essai, de mise à l'épreuve. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. tout simplement parce que tu viens de me dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Voilà. Donc Satan vient aussi. Soyons pas surpris, c'est quand même une réalité. Il est dans ce monde, il n'est plus dans la présence de Dieu du coup, puisque nous on a dépassé le livre de Job, toute l'œuvre du salut est accomplie. Mais il est dans ce monde, il est le prince de la puissance de l'air, il existe dans ce monde. Il ne peut pas agir en même temps dans la vie de tout le monde, mais comme ça fait longtemps qu'il injecte le mal, ça fonctionne maintenant. Ça se reproduit tout seul. Un tordu donne un tordu. Un pécheur donne un pécheur. Des mauvaises pensées donnent des mauvaises pensées. Il a tellement mal bien fait le travail au départ, bien fait le travail du mal, que maintenant ça s'est développé, ça s'est étendu partout comme une épidémie. Alors il n'a plus besoin, parce qu'il ne le peut pas, être près de chacun pour suriner à l'oreille certaines choses. À ce stade, j'ouvre une parenthèse. Jamais la Bible dit de lui et laisse entendre de lui qu'il a accès dans nos pensées. Jamais c'est écrit, jamais c'est laissé même sous-entendu. Jamais. Donc si quelqu'un a de mauvaises pensées, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Mais pas au diable, parce qu'il ne faut pas le charger de tout quand même. Il a le sac à dos bien chargé, mais pas de ça. Il ne connaît pas l'avenir. Parce que s'il connaissait l'avenir, il saurait ce qui lui était réservé. Et je pense qu'un minimum d'intelligence aurait amené quiconque, sachant comment ça allait se dérouler, à dire « vaut mieux pas essayer voilà. ». Il n'est pas partout en même temps. Il est un être physique, spirituel, pardon, qui, comme nous, l'être physique, ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Voilà. Donc, ne le voyons pas partout pour autant. Néanmoins, on ne va pas minimiser la chose. Il est capable de faire de mauvaises choses. Voilà. Et puis, on arrive à ce passage qui est difficile pour nous. Dans cette conversation qu'il y a entre l'Éternel et Satan, l'Éternel, non pas tombe dans un piège, parce que lui, il sait tout, il voit tout, mais l'Éternel veut le vaincre sur son propre terrain, au travers d'un de ses serviteurs qui va devoir payer le prix pour ça. Voici, je te livre tout ce qui lui appartient. Ah, c'est difficile pour nous. Alors, quid de la souveraineté de Dieu ? Dieu est-il souverain ou pas ? On dira tous oui. Ça veut dire que rien ne m'appartient, tout lui appartient. Tout ce que j'ai vient de lui, même le souffle de vie. Je dirais même d'abord le souffle de vie. Mais nous, on a une fâcheuse tendance. Ah, ben moi, c'est à moi depuis un certain temps, donc c'est à moi définitivement. Qui vous l'a donné ? À qui l'avez-vous acheté, votre souffle de vie ? Vous l'avez reçu ? Savez-vous d'où il vient ? Savez-vous où il pourrait aller, ce souffle de vie ? Alors tout lui appartient. Notre souffle de vie lui appartient, notre santé lui appartient, nos biens lui appartiennent, nos enfants, à qui appartiennent-ils ? Qui nous les a donnés ? De qui viennent-ils ? Tout lui appartient. Et il fallait peut-être oser le démontrer comme c'est démontré là. Tout ce que Job a, il le sait, c'est parce que l'Éternel le lui a donné. Il le dira. Alors ça commence. Perte des bœufs, des ânesses et des serviteurs. C'est un coup dur. Ce sont ses outils, ce sont ses moyens de vivre, si on transpose à aujourd'hui. Il perd tout, matériellement, ce qui lui permet de vivre. Mais même pas du jour au lendemain, en un instant. Il avait tout, l'instant d'après, il n'a plus rien. Et ce n'est pas fini. D'autres choses vont arriver. Et on entend cette parole qui retentira beaucoup plus loin dans l'histoire de Paul qui dit « Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. » Et on va aller le voir dans Philippiens 4, 12. « Philippiens 4:12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je sais vivre quand tout va bien. Je sais vivre quand tout va mal. Je sais, j'ai appris que tout ce que j'ai vient de Dieu. Et ça continue. Il n'a pas fini de parler qu'un serviteur arrive et il s'en est sorti lui seul. Le feu du ciel est tombé sur les brebis et sur tes serviteurs, les a consumés. Et là, il est en train de perdre les biens de ce monde. En un instant. L'instant d'avant, il avait des biens. L'instant d'après, il n'en a plus. Alors, ces gens sur qui la tour de Siloé est tombée, croyez-vous qu'ils étaient plus pécheurs, qu'ils étaient plus coupables que tous les autres? Parfois, on se dit, mais pourquoi cette catastrophe et ce malheur est-il arrivé? Alors, on essaie de trouver des explications parce que quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Forcément, si on gratte un peu, on va toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Ah, vous voyez que j'avais raison. Ah oui, mais alors, sur cette règle-là, cachons-nous tous, parce qu'il va tous nous tomber une montagne dessus, vu que dans nos vies, il y a bien des choses, au moins une, qui ne va pas. Si c'est lié, que la montagne me tombe dessus chaque fois que quelque chose ne va pas, eh bien, ça va être difficile, non? Il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de logique, parce que le malheur n'est pas logique, le mal n'est pas cohérent. Ce n'est pas celui qui le fait sur qui ça tombe le plus. C'est en général sur l'innocent. C'est le principe du mal. C'est le principe du mal. Et lui, tout lui tombe dessus. Ça vient du ciel. Ah, si ça vient du ciel, alors c'est Dieu le responsable. Non, ce n'est pas Dieu le responsable. Mais tout est déréglé à cause de ce qui s'est passé dans la chute spirituelle qui a entraîné l'humanité dans une désorganisation totale. Et il faut l'admettre. Il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Il y a une réalité spirituelle avec des conséquences dans tous les domaines. Le spirituel étant le premier, tous les autres étant en second. Et troisième, dans le domaine psychique, dans le domaine physique, dans tous les domaines, il y a une déchéance. Voilà. Il ne faut pas dire, oui, le péché, c'est d'ordre spirituel, mais le reste, ce n'est pas concerné. C'est un ensemble. Tout est lié. Un autre, il n'a pas fini de parler, un autre arrive. Les chameaux ont été enlevés. Et je suis revenu, moi, tout seul. Alors, ce que je vais dire, je suis sûr que vous allez sourire. On m'a volé ma voiture. Combien de chameaux sous le capot? On m'a volé ma voiture. Et le Seigneur de dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que c'est bien de parler de choses qui ne nous concernent pas, parce que c'est loin dans l'histoire. Donc, on ramène tout à la réalité d'aujourd'hui. Vous venez d'acheter le dernier chameau en vigueur. Avec... le radar de recul et tout ce qui va avec. Hein, voilà. Donc vous pouvez imaginer le chameau avec tout ça. Et on vous l'a volé. On vous l'a volé. Vous venez d'acheter la voiture, on vous l'a livrée le vendredi, peut-être le samedi. Vous venez au culte le dimanche avec, vous louez le Seigneur le lundi matin, elle n'est plus là. Qui va louer le Seigneur le mardi? Comme le dimanche? Mais je suis dans un état, mais cette voiture-là, etc., etc. Mais attendez, 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 attendez. C'est que de la mécanique, c'est que de la ferraille, c'est que de l'électronique. Oui, 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 mais, on m'a volé ma voiture. Alors, comme les dames souriaient, on m'a volé la dernière bague qu'on m'a offerte. Voilà. Le plus beau cadeau que j'ai reçu de ma vie, on me l'a offert le samedi, le dimanche. J'ai loué le Seigneur, tout le monde se demandait ce qui m'arrivait. C'est parce que j'ai eu un cadeau magnifique le dimanche. Lundi, la bague était dans la voiture. Elle est partie avec la voiture. Alors, monsieur est par terre et madame avec lui. On a volé les chameaux. Tout ce qui m'appartient appartient à Dieu. Alors, dans nos réactions, sachons ne pas déprimer comme si on nous avait volé la vie déjà. Sachons relativiser un peu. Et puis, sachons... faire la part des choses, mais finalement, je l'ai eu, je te remercie, Seigneur, mais c'est à toi. C'est à toi, c'est rien, c'est le mien qui vibre. Il y a quelqu'un qui essaie d'appeler, il ne sait pas que c'est l'heure de la réunion. Alors, je lui dirai tout à l'heure. pourquoi vous m'appelez quand c'est l'heure de la réunion? Venez à la réunion. Voilà. Et tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Alors, c'est sûr que ça va nous affecter, mais il ne faut pas en faire une dépression pour autant. Vous rentrez, vous retrouvez la maison ouverte, vandalisée, et tout ce qu'il y avait dedans est volé. C'est sûr que ça fait mal. Hein. Mais à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il n'a pas fini de parler. Alors là, tes fils et tes filles, un grand vent. La maison s'est écroulée sur eux. Il n'y en a pas un qui a réchappé. Je me suis échappé moi seul. La question, à qui appartient cet enfant? À qui appartient cet enfant? Ça fait beaucoup. On lui a volé ses outils, ses moyens de vivre. Le feu du ciel est tombé, a détruit ses biens. On lui a volé tous ses moyens de déplacement et autres. Il ne lui reste plus d'enfants. Que fait Job? On y retourne. Job, il n'a pas la Bible. Il n'a pas de croyants autour de lui. Parce que dans les 40 et quelques chapitres, il serait quand même apparu. Il n'y a que trois amis qui arrivent, qualifiés d'amis au départ. Et puis, chemin faisant, on se dit, le pauvre, le pauvre. C'est comme si Job concentrait en lui-même tout ce que nous ne voudrions pas qu'il nous arrive ponctuellement. Une seule de ces choses, je ne la veux pas. Lui, il les a toutes eues. Et il a fait face. L'Éternel le savait. L'Éternel savait que malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré l'incompréhension et de Job et de tout le monde, il fallait que ce qui lui arrive, arrive, pour faire la démonstration absolue qu'en dehors de toute église, en dehors de tout texte, en dehors de tout accompagnement d'ordre spirituel, un homme tout seul peut rester intègre devant Dieu. C'est haut, hein. C'est tellement haut qu'on ne saisit pas tout. Alors, ce n'est pas arrivé à d'autres. Avec autant de choses, mais combien de ces choses sont arrivées à tout le monde? Qui n'a rien eu de tout ça? On en a eu tous un morceau, hein. Peut-être même plusieurs morceaux. Eh bien, sachons regarder que Dieu a accepté d'une certaine manière de livrer Job pour dire à tout le monde, tenez bon, parce qu'il fallait vaincre le diable sur son propre terrain. Et je ne voulais pas que les gens disent qu'il serait vaincu uniquement par mon fils, parce que les détracteurs auraient dit, oui, mais là, c'est pas juste, il est quand même le fils de Dieu. Et là, il est comme tout le monde, Job. Il arrive à quand même vaincre le diable, il n'est même pas au courant en plus de ce qui se discute au-dessus de lui. Alors il déchire son manteau, il se rase la tête. Chapitre 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Voilà. Il déchire son manteau, il se rase la tête. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Cet homme n'est pas bien du tout. Et on peut le lui accorder. Il se jette par terre et il se prosterne. Que font la plupart des autres personnes quand il leur arrive un de ces malheurs? Il ne se jette pas par terre pour se prosterner. Il se lève et il lève le poing contre Dieu. Et lui, il se jette par terre, pardon, et il se prosterne. Et en plus, il est complètement abattu. Mais c'est la bonne réaction. C'est celle-là qu'il faut avoir. Il ne faut pas jouer plus spirituel que l'on est. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Nous avions la crainte de Dieu, pourquoi ne l'aurions-nous plus? C'est l'épreuve qui fait apparaître la réalité des choses. Hein. Si ce qu'on a dit, on le vit vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a certains qui nous attendent au tournant. Ouais, tu me parles de ton Dieu, attends voir qui t'arrive ça ou ça. Il y a toujours des prophètes qui vous souhaitent le meilleur. Eh bien, quand il m'arrive ça ou ça, finalement, je n'essaie pas de tenir bon pour leur fermer le bec. Je tiens bon parce que je m'accroche à Dieu et je m'y accroche en désespoir de tout parce que je comprends plus, parce que je n'en peux plus. Il déchire son manteau, il se rase la tête, il se jette par terre, il est complètement abattu et il se met à parler. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et c'est un homme comme nous. Et il dit, alors que disons-nous quand quelque chose de ce niveau-là, de cette difficulté-là nous arrive? Que disons-nous? Rappelez-vous ce que vous avez dit la dernière fois où vous êtes arrivé quand vous a volé la voiture. Je n'ose pas parler d'autre chose. Qu'est-ce que nous avons dit, nous les croyants? Nous qui devons tenir bon, tenir ferme. Eh bien, quand on n'arrive plus à rien dire, rappelons-nous de Job, il n'a pas dit grand-chose, mais alors ce qu'il a dit, c'est du granit, c'est du socle. Je suis sorti nu du sein de ma mère. J'existe par la grâce de Dieu. Je n'ai rien provoqué parce que je ne suis rien. Si j'existe, c'est parce qu'on a bien voulu me donner la vie et je suis venu avec rien. Et je repartirai avec rien. Le monde a tellement compris qu'il dit à certaines personnes, mais tu ne l'amèneras pas avec toi dans le cercueil. Alors pourquoi t'y attacher fondamentalement? D'ailleurs, il y aurait même une incohérence, voire même une ironie dans la chose, c'est qu'il nous faut quasiment toute une vie pour avoir beaucoup au moment de mourir. C'est pas ironique cette affaire-là? La Bible le dit, est-ce que tu as préparé? Pour qui sera-ce? Donc, du coup, tout ce qui nous a pris toute une vie, attention au piège, ne nous y attachons pas en proportion. Parce que, qui sait si cette nuit même, ton âme ne te sera pas redemandée. Et ton âme ne partira pas avec des euros, des lingots, les clés de la voiture, les bagues et tout le reste. Alors, la richesse de ton âme, avec le temps, a-t-elle fructifié? Es-tu riche dans ton âme? Es-tu épanoui dans ton âme? Parce qu'on l'a vu dimanche, je disais en plaisantant, mais avec le temps, comme on perd de l'eau, on devient plus sec. Est-ce que notre âme s'est asséchée avec le temps qui passe? Où s'est-elle épanouie et s'est-elle développée? Mon âme, tu as beaucoup de bien pour plusieurs années. Mange, bois et réjouis-toi. Il y a un truc qui lui a échappé. Parce que où est la bouche de l'âme pour lui donner à manger et pour lui donner à boire? Voilà. Et est-ce qu'une âme rit? Peut-être. Mais je ne sais pas comment rit une âme. Voilà. Une âme se réjouit certainement. Et j'y retournerai sans rien. Dans le sein de la terre. Alors, je ne veux pas plomber la soirée, mais vous et moi, nous connaissons notre destination temporelle. Si ça plombe un peu quand même. Ça plombe un petit peu. Hein. Notre destination temporelle. Je retournerai nu dans le sein de la terre. Mais une fois que vous l'avez intégré cela, que vous êtes arrivé tout nu et que vous repartirez tout nu sans rien, mais vous êtes libéré de tout ce qui s'est accroché à vous pendant le temps. On vous a accroché, il faut que tu aies ceci, il faut que tu gardes cela, il ne faut pas que tu perdes, il faut que tu réussisses, etc. On vous en a mis, ça s'est accroché comme des mauvaises herbes au printemps, là, vous savez, celles qui, vous avez marché avec des chaussettes en coton et vous revenez, c'est fichu. Voilà. Non, je suis libéré de tout. Et en général, il y a un principe spirituel, c'est que quand on est libéré de tout, alors Dieu peut tout nous donner. Voilà. Parce qu'on va pouvoir bien le gérer. Voilà. Et il arrive à ceci, l'Éternel a donné. parce qu'il n'a jamais oublié que tout ce qu'il a, c'est parce que Dieu le lui a donné. Sur 7000 brebis, chacune, la première, la deuxième, etc., jusqu'à la 7000e, ça lui a été donné. 3000 chameaux, du premier au dernier, 500 paires de bœufs, 500 ânes, un grand nombre de serviteurs, 7 fils, 3 filles, tout lui a été donné. Si ça m'a été donné, ça veut dire que ce n'est pas par mes mérites, c'est parce que je l'ai reçu. Quelqu'un me l'a donné. Et Job, en ce temps-là, et c'est là où on rentre dans la révélation progressive, j'ouvre juste une parenthèse qui nous fait dire que, eh bien, il ne sait pas ce que nous, nous savons depuis, c'est que le mal ne vient pas de Dieu, mais lui pense que tout vient de Dieu, parce qu'il n'a pas connaissance de l'existence de Satan. Et en ce temps-là, les croyances étaient quasi identiques. On croyait que tout venait de la divinité, le bien comme le mal. Voilà. Donc du coup, quand il fallait sacrifier l'enfant à la divinité, pas de problème pour ces gens-là de ces époques-là. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors si c'était difficile à intégrer, là, ça devient impossible à saisir. Que cet homme, en plus, pense que tout ça, ça vient de Dieu. Et malgré ce, il ne lui attribue rien d'injuste. Il ne pèche point, que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous, nous savons que le mal ne vient pas de Dieu. Nous savons que la tentation ne vient pas de Dieu. Mais comme on sait tout, qu'on en sait peut-être même un peu trop, on se dit, et c'est là notre blocage, « Oui, mais Seigneur, tu le savais, tu l'as permis. Comment se fait-il que tu l'aies permis ?» Là, je bloque. Non seulement je bloque, mais parfois même je débloque complètement. J'en arrive à dire et à penser n'importe quoi. Ressaisissons-nous, reparamétrons la formule. Je suis sorti nu, point. Je partirai nu, point. Tout ce que j'ai m'a été donné, point. Alors, si quelque chose m'a été ôté, même si je ne comprends pas le pourquoi du comment, Seigneur, moi je reste fidèle. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et je voudrais simplement ce soir que les uns et les autres, très honnêtement, avec sincérité, on puisse se placer devant le Seigneur en disant, Seigneur, mais moi où j'en suis dans ce qui m'arrive ? Comment je réagis par rapport à ce qui m'arrive? Comment je parle de toi? Comment je te parle même dans mes prières, dans mon incompréhension, dans mon refus, dans ma révolte, d'une certaine forme de délire parfois, parce que quand ça ne va pas, ça ne va pas. Lui, il déchire ses vêtements, il se rase la tête, il se jette par terre et il se prosterne devant Dieu. Et peut-être que ce serait... bien que les uns et les autres ce soir, avec honnêteté, on se place devant le Seigneur en disant « Seigneur, mais aide-moi à être un homme, une femme de foi, comme lui, non pas pour me préparer à tout perdre, parce que ce qui lui est arrivé a été arrivé pour nous servir d'exemple, mais justement pour me servir d'exemple. Et s'il m'arrivait de perdre quelque chose, que ce soit la voiture ou la bague, on ne va pas faire une jaunisse pour autant. Ce serait dommage de mourir de la jaunisse que vous avez attrapée parce que vous avez perdu la bague. Il y a tellement plus important que cela, le salut de l'âme, de celui qui est à côté. Et Dieu va le bénir, et Dieu va lui redonner beaucoup de choses, ce qui là aussi nous surprend. Mais Dieu est Dieu, et nous ne sommes que des graines de poussière rassemblées qui fonctionnent un petit peu pendant quelques années. Alors sachons rester à notre place. Gloire et louange à toi. Seigneur, devant ce récit de ta parole,